Régis Béguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion action chez Lazard. On va parler avec vous, bien sûr, de votre présentation du jour sur les marchés. On s'interroge beaucoup aujourd'hui où en sont ces marchés actions. Quel bilan vous faites, je dirais, de ces quelques mois après le Covid?
Eh bien, on a en réalité deux marchés. On a un tout petit marché qui est un marché très concentré sur les valeurs technologiques américaines en particulier. On a quelques phénomènes semblables en Europe, mais qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, on a l'immense majorité, en réalité, du marché qui est en baisse depuis le début de l'année, ce qui est d'ailleurs naturel, puisqu'on a eu effectivement une conjoncture économique historique. Alors, évidemment, on a eu une protection contre cette conjoncture économique historique, mais quand même les entreprises ont subi de très très violentes baisses de résultats et par conséquent les valorisations s'en sont ressenties. Donc il y a une illusion à cette hausse des marchés depuis le début de l'année.
C'est-à-dire qu'on a clairement les indices alors qui ont été au plus haut, qui sont au plus haut, des valorisations incroyables, mais quand on creuse, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu de plus près les valeurs, finalement on a effectivement cette concentration sur ces valeurs technologiques, les fameux Apple, Amazon et autres. Au-delà, finalement, ça ne va pas si bien que ça.
Au-delà, ça ne va pas si bien que ça. Il y a la pharmacie qui se comporte quand même pas mal, à juste raison. On le comprend aisément. Pas si bien que ça, d'ailleurs. Il y avait eu des plus hauts. On est loin des plus hauts, en réalité, qui avaient prévalu au printemps, parce qu'on s'aperçoit que dans la pharmacie aussi, il y aura des difficultés. Et puis, vous avez les valeurs industrielles, les valeurs bancaires, les valeurs automobiles, qui sont, elles, plutôt à des niveaux très, très bas, voire à des plus bas historique pour certaines d'entre elles.
Alors, vous suivez comme moi ces marchés actions depuis longtemps. D'habitude, on va dire, ou pour même un investisseur novice, on lui dirait, non mais attention, ne concentre pas tes investissements sur quelques valeurs. C'est pourtant ce qui est fait depuis de nombreuses années maintenant.
Oui, alors on a eu des nouveaux investisseurs, des nouveaux boursicoteurs qui sont nés à la faveur du confinement, notamment aux États-Unis, mais ça a été le cas en Europe aussi. Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le fait que les gens un petit peu s'ennuyaient chez eux, et puis le fait que pour certains d'entre eux, ils avaient des liquidités, ils continuaient de toucher leur salaire, etc., qu'ils n'arrivaient pas à dépenser puisqu'on ne pouvait pas dépenser. Et donc, il y a eu cette tentation d'aller spéculer un petit peu en bourse. Et puis, comme ça s'est bien passé, parce que très souvent, les boursicoteurs, ils achètent des grands noms bien connus, ça les a encouragés à continuer. Je pense que ça fait accélérer le phénomène.
Ça nous rappelle quand même les années 2000 où vous aviez ces titres de la presse avec les nouveaux riches. Vous aviez, alors aujourd'hui, effectivement, vous parliez de nouveaux investisseurs aux États-Unis, c'est Robinhood qui fait du trading à 0%, enfin en termes de frais. On retrouve quand même certaines choses. C'est difficile de comparer. Qu'est-ce qui est comparable finalement entre ce qu'on a vécu, cette bulle, alors des dot-com de l'époque, et ce qu'on vit aujourd'hui?
Alors, on revit complètement une période extrêmement proche de celle de 2000, ce phénomène des nouveaux boursicoteurs, l'argent plus ou moins gratuit, les coûts de transaction très faibles, etc. Donc, on revit quelque chose de très, très proche de 2000. Et d'ailleurs, on a des niveaux de valorisation du Nasdaq 100 par rapport aux autres indices qui ont atteint des niveaux qui sont encore supérieurs à ceux de 2000. Cependant, il y a quand même une différence avec 2000. C'est qu'en 2000, on avait vraiment un aéropage de business model qui était relativement absurde et qui ne pouvait pas se développer, qui consommait énormément de cash, qui était fondé sur vraiment des hypothèses très très farfelues. Aujourd'hui, quand on parle de ces grands noms de la cote, ce sont des entreprises qui sont extrêmement rentables. Donc la problématique n'est pas tant sur la nature même de leur business model que simplement sur leur valorisation. Donc je dirais que de ce point de vue-là, La survalorisation d'aujourd'hui est moins excessive que celle de l'an 2000.
C'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, chez Apple, le fait qu'il y ait beaucoup de cash.
Chez Apple, il y a énormément de cash et une marge opérationnelle qui est extrêmement élevée. La marge opérationnelle de Microsoft est extrêmement élevée. Celle d'Amazon, un peu moins, parce que c'est un business model qui est différent. Mais enfin, Amazon n'a pas besoin. Ce sont des entreprises qui n'ont pas besoin, c'est la différence avec 2000, qui n'ont pas besoin de faire appel au marché pour financer leur business model. C'est donc fondamentalement un petit peu différent.
On a eu quand même des alertes en Allemagne, je pense à Wirecard par exemple, on découvre qu'il y a 2 milliards, on ne sait pas où ils sont.
Oui, alors là, c'est un cas vraiment extrêmement particulier. Il s'agit vraiment d'une fraude comptable qui remonte à de nombreuses années. Alors, c'est vrai qu'il y avait des signaux, il y avait des incertitudes sur ce business model. Il y avait un certain nombre de choses qui ne correspondaient pas au discours de la société. Mais on est dans le cas d'une fraude. Une fraude, on a eu Enron, ça n'est pas particulier à une bulle ou à un secteur en particulier. Ça peut arriver un petit peu dans n'importe quel type de secteur.
Alors, les boursiers regardent bien sûr ce que disent les économistes, mais pas toujours, toujours pour de bonnes raisons. Là, les économistes sont un peu perdus. Alors, on nous parle de reprise en cas. Certains disent, les boursiers disent plutôt un W. Ils sont un peu perdus sur finalement ce post-Covid. Nous sommes toujours dedans, mais comment va se passer la reprise finalement ?
Cette reprise, elle se passe pas mal hein, sur le plan macroéconomique. Elle existe, elle est là. On devrait retrouver dans le courant de l'année 2021, quelque part dans le courant de l'année 2021, peut-être à la fin de l'année 2021, les niveaux de PIB qui prévalaient avant le Covid. Et elle est là parce que les phénomènes macroéconomiques n'ont pas du tout été les mêmes que lors d'une crise économique traditionnelle, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout eu l'effet de surstockage, parce que souvent c'est la variation des stocks qui provoque à la fois les crises et la reprise. Et nous n'avons pas eu du tout ce phénomène-là, puisque c'était lié à une crise sanitaire. Mais il y a une grande incertitude. La grande incertitude, c'est ce financement aujourd'hui qui est fait par les États et par l'intermédiaire des banques centrales, eh bien, comment va-t-il se déboucler à la fin de l'histoire ? Le débouclement naturel de ce financement devrait être la résurgence à un moment donné de l'inflation. Pour l'instant, nous n'en avons aucun signal, mais ce serait la logique naturelle pour déboucler cette équation qui paraît quand même assez merveilleuse à ce stade.
Alors, on parle aussi en bourse traditionnellement de secteurs. Quand on voit, je regardais hier Airbus qui communiquait pour nous dire une commande au mois d'août, quoi. C'est quelque chose d'incroyable, même on n'aurait pas imaginé quoi, que ça puisse arriver à Airbus. Oui. On retrouve du cycle pour l'aéronautique, finalement, un cycle. Alors, c'est le cycle, c'est le Covid, c'est pas le cycle économique. Donc, comment on va faire pour, naviguer dans tous ces secteurs ?
Alors, il est vrai qu'il y a des secteurs qui vont avoir du mal à s'en remettre. C'est le cas très clairement de l'aéronautique. Il va falloir, ce secteur ne va pas disparaître, mais il va devoir se réinventer sur des nouvelles bases. Il y avait eu une sorte de miracle qui a duré 15-20 ans d'un secteur aéronautique qui n'avait pratiquement plus connu de cycle. Même la crise de 2009 était passée comme ça, presque inaperçue, et on était sur une croissance du trafic aérien de 5%. Alors évidemment, les compagnies aériennes dans lesquelles il y avait beaucoup de compétition souffraient pour certaines d'entre elles, hein, c'était pas forcément... Mais en revanche, les équipementiers aéronautiques étaient dans une situation qui était merveilleuse. Et là, évidemment, on a loupé une marche, et de manière assez durable, parce que le trafic aérien ne va pas reprendre de sitôt de là où il était, ne va pas atteindre, pardon, de sitôt le niveau qui prévalait avant le Covid. Et donc, pour ce qui est du trafic aérien et pour ce qui est des équipementiers aéronautiques, il va falloir se réinventer. On a aussi de grandes incertitudes sur l'immobilier de bureau. Le télétravail va rester une pratique. Alors à 10%, 20%, 50%, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça va rester une certaine pratique. L'immobilier de bureau, il y a des questions à se poser. En revanche, d'autres secteurs qui ont beaucoup souffert à court terme pourraient reprendre du poil de la bête assez rapidement. Si vous prenez l'automobile, si vous prenez le secteur autoroutier, ou même d'ailleurs le secteur bancaire, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas à la faveur du PIB les tendances qu'on avait auparavant.
Le mot de la fin, bon, on le dit aussi traditionnellement, don't fight the Fed, n'essayons pas de combattre la Fed. On sait qu'il y en a qui ont perdu leur chemise dans certaines gestions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les prochains mois, justement ?
Ça veut dire que les taux courts de la Fed vont rester très bas, même dans l'hypothèse, et c'est vraiment une très grande nouveauté, même dans l'hypothèse où l'inflation reviendrait. La Fed s'est engagée à maintenir ses taux courts extrêmement bas pour une très longue période. Ça veut dire qu'on pourrait avoir tout d'un coup, si l'inflation revenait, quand même une certaine tension sur les taux longs, et donc une pente qui serait extraordinaire. Ce serait au passage potentiellement une très très bonne nouvelle pour le secteur bancaire, une pontification de la courbe.
Merci beaucoup Régis Béguet d'avoir fait le point avec nous.
Merci beaucoup à vous, à bientôt.